Bonsoir, c'est un nouveau temps du débat d'été qui s'ouvre sur France Culture. Il sera consacré ce soir à l'avenir de l'écologie dans le paysage politique français. Avec une question toute simple, les Verts sont-ils la nouvelle gauche ? C'est une idée qui, un 20 août, a encore un petit peu de mal à passer. Mais certains signes ne trompent pas. La Ligue 1 de football reprend dès demain. La grille d'été de France Culture s'achève en fin de semaine. Nous voici déjà dans cette courte et étrange période qui sépare l'été, le vrai, du mois de septembre. En bref, ça sent la rentrée. Et d'ailleurs, le bal des universités d'été des partis politiques s'est ouvert il y a quelques minutes à peine, à 18h, avec les journées d'été des écologistes qui se sont ouvertes à Pantin, en Seine. Saint-Denis. Elle se déroule jusqu'à samedi à la Cité Fertile, mais aussi et surtout sur Internet où tous les événements sont à suivre en direct, crise sanitaire oblige. Les journées d'été des écologistes, c'est ainsi que se nomme l'événement, et c'est une nouveauté. L'année dernière, à la même période, Europe Écologie Les Verts a organisé sa rentrée en solitaire à Toulouse. Cette année, ils sont 6 partis à co-organiser l'événement, Europe Écologie Les Verts, mais aussi l'Alliance Écologiste Indépendante, Cap 21, Génération Écologie, le Mouvement des progressistes et Génération, le mouvement créé par Benoît Hamon en 2017 dans la foulée de son départ du Parti Socialiste. C'est donc une rentrée écologiste sous le signe de l'unité. D'ailleurs, Julien Bayou, le secrétaire national de ELV, appelle depuis plusieurs mois à dépasser la structure de son parti pour bâtir une maison commune autour de l'écologie en vue des présidentielles de 2022. Un élan qui se veut la suite logique des bons résultats aux européennes de 2019, mais aussi et surtout de la vague verte des dernières municipales qui a vu les écolos conquérir plusieurs grandes villes de France. Est-ce donc à dire que les écologistes sont devenus la principale force politique à gauche ? Sont-ils en capacité de rassembler plus largement encore d'ici 2022 ? La refonte idéologique de la gauche française peut-elle se structurer autour d'un paradigme écologique ? Pour répondre à ces questions, nous recevons ce soir la vice-présidente du think tank La Fabrique Écologique, Lucille Schmitt. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une ancienne élue socialiste passé chez Europe Écologie Les Verts entre 2013 et 2016. Aujourd'hui, vous avez rejoint le mouvement Génération Écologique qui participe d'ailleurs aux journées d'été écologistes. Également avec nous en studio, Sébastien Repère. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en histoire, auteur d'une thèse sur la construction et la structuration de l'écologie politique en France de la fin des années 70 jusqu'au début des années 90. Et puis pour finir, nous recevons à distance Isabelle Tisse-Saint-Jean. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire nationale du Parti Socialiste, chargée des études, conseillère régionale d'Île-de-France et vous enseignez l'économie à l'Université Paris 13.
L'écologie est en train de recomposer le paysage politique. Il y a 3 ans, c'était Emmanuel Macron qui recomposait le paysage politique autour de sa personne, de sa promesse. Aujourd'hui, ce paysage, il se recompose autour d'un projet, d'une espérance, de solutions très concrètes et à la fois qui projettent nos enfants dans un avenir serein. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle démocratique.
C'était le 29 juin dernier, au lendemain du second tour des municipales. Invité sur Europe 1, Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts et candidat à la dernière présidentielle, livre son analyse du succès historique des écologistes. L'écologie recompose le paysage politique comme Emmanuel Macron l'a fait en 2017. C'est ce que pense Yannick Jadot. Alors je commence avec vous Isabelle Tisse-Saint-Jean. Est-ce qu'on partage la même analyse au Parti Socialiste ?
Alors, ce qui est clair, c'est qu'il ne peut y avoir aujourd'hui d'offre politique de gauche sans que la question environnementale et écologique soit absolument centrale. Ceci étant, ça n'épuise pas l'offre politique et programmatique qu'il faut que l'on construise ensemble. Il y a aussi nécessité de penser la question sociale, en particulier, enfin peut-être aujourd'hui plus que jamais, étant donné les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire qui a bouleversé le monde ces derniers mois, la violence de cette crise. Et donc il faut absolument, absolument penser les deux choses simultanément. Et bien sûr, il y a nécessité d'intégrer complètement complètement les composantes environnementales et écologiques. Hein. L'alerte maintenant ne peut plus être ignorée par personne et on est passé dans un paysage où il y a déjà de l'irrémédiable, hein, très très largement. Donc il y a une urgence absolue à une modification très profonde à tous les échelons de l'action politique, de l'action de chacun et chacune d'entre nous jusqu'à l'échelon international en passant par l'échelon national, local, tous les échelons locaux, il y a une et européen, il y a une nécessité absolue de modifier nos modes de production, nos modes de consommation, notre rapport au monde, notre rapport aux autres, mais en marchant sur deux jambes, c'est-à-dire à la fois la question sociale et à la fois la question environnementale. Et c'est pour ça que il n'y a pas prééminence des uns et des autres. Il ne faut pas qu'on fasse cette erreur et que il y a nécessité de dépasser toutes les structures partisanes d'aujourd'hui sans effacement. Et c'est un slogan que nous on martèle depuis deux ans en tendant la main dans le même temps où on fait notre repositionnement, hein, contrairement à ce que peuvent dire certains, il n'y a pas du tout eu pas de travail au sein du Parti Socialiste. Il y a eu un énorme travail au sein du Parti Socialiste de repositionnement, de clarification, de réaffirmation de notre volonté transformatrice, qui est passée par l'exercice du bilan du quinquennat, hein, qui avait fait couler pas mal d'encre. Et donc, nous, on est prêts pour qu'il y ait ce travail collectif de reconstitution programmatique, qui fera que les appareils se retrouveront à un moment, mais c'est d'une certaine manière un peu second par rapport au travail qui est face à nous en ce moment, qui est un travail de refondement idéologique et de réinvention de solutions nouvelles, parce que vu l'ampleur des défis, on n'a pas, il faut pas économiser l'intelligence collective, donc on a vraiment besoin de tout le monde. Donc il faut pas recommettre des erreurs passées, d'arrogance de certains, surtout au vu d'une vague verte qu'il faut quand même relativiser. Hein. Bien sûr, des villes ont été conquises par Europe Écologie Les Verts, mais si vous regardez la dynamique du Parti Socialiste, il y a eu une dynamique extrêmement forte de 21 villes de plus de 20 000 habitants qui ont été conquis par des maires avec des têtes de liste qui étaient socialistes, donc mais dans un bloc de gauche d'unité des forces écologistes et socialistes et démocratiques et féministes on viendra peut-être sur la question européenne.
Oui, tout à fait. Alors Lucile Schmitt, je reviens à ce que disait Yannick Jadot. Est-ce que le 29 juin, au lendemain des municipales, la France a réalisé que l'écologie était la préoccupation numéro un, ou en tout cas une nouvelle préoccupation importante des Français et des électeurs?
Oui, moi je crois que ce qui est assez passionnant, c'est que ce deuxième tour des élections municipales n'a pas été d'une certaine manière cohérent avec le premier. C'est-à-dire qu'entre-temps, on avait été confinés, il y avait eu le coronavirus qui a été un moment, en fait, d'une certaine manière qui a renforcé les thèses écologistes. Parce que, au fond, ce qui est passionnant sur l'écologie, c'est que c'est un changement culturel, c'est pas seulement un jeu d'acteurs politiques. Les jeunes sont hyper à la manœuvre, ils sont puissants, ils sont motivés, alors que les jeunes étaient qualifiés d'abstentionnistes. Donc on est dans une reconfiguration, au fond, de l'élan politique. Et du coup, la question socialiste, écologiste, etc., je ne sais pas s'il faut l'envisager avec le même sens ou le même contenu que lorsqu'on discutait seulement entre partis politiques et qu'on faisait des alliances d'appareils. On est face à une vague, je ne sais pas si c'est une vague verte, je pense que c'est une vague en tout cas de modification, de transformation des attentes de ce qu'on pense être la politique et une modification profonde des priorités. C'est-à-dire que Isabelle Thyssen-Jean l'a rappelé, il y a une alerte, c'est même pas une alerte, d'ailleurs c'est une transformation du monde, c'est une espèce de catastrophe écologique qui se produit sous nos yeux. Par ailleurs, c'est une transformation culturelle de nos habitudes. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes, ils prennent beaucoup moins la voiture, passer son permis de conduire, c'est plus un acte initiatique à 18 ans. Sauf peut-être quand vous vivez dans un endroit où on peut pas faire autrement, mais en tout cas, il y a quelque chose sur la transformation culturelle qu'il faut prendre en considération. Du coup, Yannick Jadot n'a pas tort de dire que l'écologie, c'est la bonne nouvelle lorsqu'on parlait d'une atonie démocratique. Il a raison de dire que c'est une dynamique démocratique. En revanche, je nuancerais le fait que ça veut dire, par exemple, que les Verts ont tout gagné à l'avance et qu'il n'y a plus que les Verts dans le paysage politique français, parce que d'abord, les Verts ne sont pas propriétaires de l'écologie. C'est le parti qui incarne l'écologie aujourd'hui lorsqu'on vote, mais l'écologie, c'est bien autre chose que l'écologie électorale. Au fond, c'est une transformation de notre approche de la démocratie. C'est par exemple Extinction Rébellion, c'est par exemple l'idée de transformer nos modes de consommation. C'est une manière de devenir responsable du monde et de soi tous les jours. Et du coup, la question électorale, elle ne doit plus être vue, si on met l'écologie politique au centre du jeu, comme l'unique question, l'unique manière de répondre aux aspirations démocratiques. C'est quelque chose de très profond et c'est quelque chose de difficile à comprendre pour les acteurs politiques parce que pour eux, avoir des élus, arriver à obtenir le pouvoir institutionnel, c'était quelque chose qui était le Graal. C'est pas le cas des écologistes. Les écologistes ont toujours été des libertaires, ils ont toujours été quelque part anti-institutionnels et c'est là leur problème. C'est-à-dire que Yannick Jadot, il aura beau dire « c'est fantastique, on a gagné les municipales », il ne transformera pas le fait que les écologistes ont exercé beaucoup moins souvent les responsabilités, notamment la responsabilité suprême par rapport aux socialistes, par rapport à la droite aussi, puisque la droite dit aussi qu'elle fait de l'écologie, assumons de le dire aujourd'hui. Et donc par rapport à cette question de l'exercice des responsabilités, au moment où on vit de crise en crise, crise sécuritaire, crise sanitaire, crise écologique, cette question de l'exercice des responsabilités, elle peut être pour les écologistes, aujourd'hui, le sujet sur lequel il y a à débattre. Isabelle Thys-Saint-Jean a rappelé qu'il y avait effectivement 21 villes qui avaient été gagnées ou conservées par des socialistes, notamment des femmes comme Johanna Roland à Nantes ou Nathalie Appéré à Rennes. Il y a Nancy qui a été conquise. Michèle Rubirola, elle a gagné Marseille. C'est une coalition. Il faut rappeler que les Verts ne souhaitaient pas qu'elle se présente. Donc c'est quelque chose de plus compliqué que les appareils. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que j'oublie Anne Hidalgo, qui pourtant représente, j'allais dire, la mère écologiste, même si elle s'engueule avec les écologistes de sa majorité. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que on voit bien, comment dirais-je, que c'est des personnalités qui gagnent, et elles gagnent avec des projets qui sont à la fois de gauche et écologistes. Même des maires de droite, d'ailleurs, mettent de l'écologie, vous savez, ça pimente de vert. Mmh. Donc à partir de là, qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ce contenu écologique qui, par ailleurs, je tiens à le rappeler, est à géométrie variable selon les personnes, le lieu où on se situe, la manière dont on veut faire, comme on dit, de l'écologie positive ou de l'écologie plus ambitieuse, plus volontariste. Qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ce sentiment que l'écologie est incontournable, mais que la confusion règne sur la meilleure manière d'être efficace sur ce sujet?
Sébastien Repère, cette transformation culturelle profonde qu'évoquait à l'instant Lucille Schmitt, est-ce qu'elle signifie que l'écologie politique est aujourd'hui un tournant de son histoire?
Alors, elle est peut-être un tournant de son histoire, et la gauche aussi, mais je reviendrai d'abord sur la notion de vague verte, et Isabelle Thys-Saint-Jean avait raison de relativiser cette notion. Lorsqu'on regarde par exemple les résultats des écologistes à Paris, alors que ce sont de bons résultats, on voit que David Belliard fait un petit peu plus de 10%, quand Anne Hidalgo en fait 29%. Donc, même dans les grandes métropoles, j'aurais tendance à relativiser cette notion de vague verte. Mais ce qui est certain, c'est que même si électoralement, les Verts, les écologistes de façon générale, ne sont pas devenus dominants à gauche. En tout cas, je crois qu'ils le sont devenus d'un point de vue idéologique. Parce qu'il y a depuis le milieu des années 80, une forme d'affaissement idéologique de la social-démocratie qui fait que l'EPS, d'autres partis de Verts, sont à la recherche d'idées neuves, et les seules idées neuves qu'ils trouvent pour le moment viennent du côté de l'écologie, viennent de l'écologie. Et ça a placé la gauche dans une position assez particulière. Si on regarde au tout début des années 80, par exemple, au moment de l'élection de François Mitterrand, Mitterrand a besoin, de façon très relative, de l'appoint des voix écologistes entre les deux tours. Mais c'est juste un appoint. Idéologiquement, il a son propre logiciel qui tourne tout seul. Aujourd'hui, la situation est très différente. Et même du point de vue idéologique, on trouve dans les programmes, et notamment dans le programme des différents candidats aux dernières municipales, des éléments qui viennent presque directement de l'écologie politique. Si on regarde les aspects environnementaux du programme d'Anne Hidalgo, on voit qu'ils sont fortement matiné, fortement modelé par les propositions écologistes. C'était presque une candidate écologiste, Anne Hidalgo. Si on regarde ses affiches de campagne, les affiches étaient cerclées de vert. Pour le deuxième tour, on ne voyait que le logo d'Europe Écologie Les Verts. On voyait aucune référence au Parti Socialiste. C'était quasiment la candidate des écologistes à Paris. Il y a donc là, à mon avis, un vrai tournant. Et si les écologistes se sont retrouvés en position de force à gauche, moi je dirais que c'est pour beaucoup le fait des socialistes qui ne se sont pas renouvelés idéologiquement en interne, en puisant dans leur logiciel ancien, dans les idées qui paraissent peut-être déjà un peu vieilles du mouvement ouvrier, mais ils sont allés chercher ailleurs chez les écologistes ce renouvellement.
Isabelle, Saint-Jean, je vous laisse réagir à ce que vient de dire Sébastien Repère.
Ouais, en essayant encore une fois de pas du tout être dans une logique partisane, parce que je crois que c'est pas du tout le lieu et ça n'a pas d'intérêt. Mais je crois que c'est pas vrai. Je crois que c'est pas vrai. Je pense que effectivement il y a eu pleinement intégration de la question environnementale. Mais comment ne pas le faire? Enfin, je veux dire, quand on est dans la situation dans laquelle on est, que Lucile rappelait tout à l'heure, la gravité, l'ampleur de la situation, on n'a plus le choix, c'est de toute façon un impératif. Mais parallèlement à ça, il y a eu quelque chose d'autre, qui s'est passé sur l'autre jambe, qu'on entend à bas bruit, en gros, depuis une dizaine d'années, et qui fait, et je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez, qui fait qu'on est sorti d'un espèce de délaissement de la question des inégalités et de la question sociale. Il y a eu toute une série de travaux qui ont été faits, notamment par des économistes, et je pense en particulier aux travaux de Piketty, mais aussi tous les travaux de Gabriel Zucman, tous ces jeunes économistes français, qui ont remis avec une évidence absolue le fait que il y avait dans le logiciel de cette économie de marché capitaliste une production d'inégalités qui faisait que plus que jamais on avait besoin de repenser aussi la question de la redistribution et que ça passait notamment, et c'est là où nous on peut apporter quelque chose, que ça passait notamment par l'échelon redistributif, par l'échelon national. Mais aussi par l'échelon international, que je l'ai dit, et l'échelon européen. Et donc, je crois que c'est pas vrai. Je pense que c'est vraiment, mais c'est peut-être parce que pour l'instant, on a peu donné à voir le travail qui a été fait en interne, mais pour l'instant, on s'est pas simplement transformé en des nouveaux écologistes, même si on change pas de logo. C'est, il y a un travail de fond qui fait que, on réassoit l'offre programmatique à la fois sur la question sociale, la question des inégalités, de l'autre côté la question écologique, que tout ça nécessite qu'on repense notre modèle économique et social et culturel et démocratique. Et que ça nécessite un travail collectif. Donc moi je crois pas du tout que le Parti socialiste est à la remorque de l'écologie et que c'est devenu un parti simplement écologiste. C'est trop simple. Et de la même manière qu'à l'intérieur de l'écologie, il y a des très grandes divergences entre une écologie qui accepte de traiter la question sociale et qui considère que la question des inégalités est une question majeure et que si on la traite pas, on va droit dans le mur. Il y a quand même eu récemment un certain nombre de mouvements sociaux en France avec les gilets jaunes et partout qui montrent qu'on ne peut pas faire l'économie de traiter cette question.
On va revenir, Isabelle Tissin-Jean, sur les divergences au sein même du mouvement écologiste. Mais d'abord, Sébastien Repère, souhaitez-vous réagir à votre réponse?
Oui, alors je ne dis pas seulement qu'il y a une prise de conscience au Parti Socialiste des problèmes environnementaux. Cette prise de conscience, on la trouve dans l'ensemble du spectre politique et heureusement, chez LREM, il y a la même prise de conscience d'une urgence écologique. Mais je dis que le PS est allé beaucoup plus loin en intégrant dans ses propositions des propositions qui venaient directement des Verts et en intégrant également une partie de la rhétorique des Verts. Et à mon avis, ça s'explique historiquement parce que jusqu'aux années 1990, il n'y a pas de capacité d'expertise interne au PS sur ces questions. C'est venu plus tard. Et dans les années 1990, au moment où la gauche scelle la gauche plurielle, et dans les années qui suivent, eh bien là, il y a, à mon avis, une vraie porosité intellectuelle, idéologique, entre ces partis, et il y a donc une récupération, entre guillemets, pas dans un sens péjoratif, mais une véritable récupération par le PS de thématiques qui viennent directement des Verts, c'est-à-dire pas uniquement des propositions environnementales, mais des propositions environnementales telles qu'elles ont été formulées par les Verts.
En tout cas, pour beaucoup, la condition d'une potentielle victoire écologiste en 2022 ou même avant au régional sera la capacité de penser et d'organiser l'alliance avec le reste de la gauche, notamment entre la gauche et le Parti Socialiste. Alors écoutez, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui se montre assez ouvert sur les conditions de cette alliance.
Mais je suis prêt à me ranger derrière celui qui incarnera le bloc social écologique. Je ne veux pas regarder les choses comme vous les regardez à chaque fois en fonction des origines de chacun. La question n'est pas de savoir d'où celui ou celle qui nous incarnera collectivement. La question n'est pas de savoir d'où il vient, mais où il va et où nous allons ensemble. C'est ça la vraie question. Et donc, ce sera peut-être un écologiste, peut-être un socialiste, peut-être quelqu'un d'autre. Peu importe. La question, c'est où est-ce que nous allons ensemble? Et est-ce que nous sommes capables de le faire ensemble?
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste sur RTL le 29 juin dernier. Alors cette idée de se ranger derrière les écologistes a fait grincer des dents dans les rangs du PS. Et dans le même temps, cet après-midi même, Karima Delli, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, a déclaré dans le Huffington Post « Nous n'avons plus besoin du grand frère socialiste ». Lucille Schmitt, on a l'impression qu'il y a un rapport de force entre les écologistes et les socialistes et que ce rapport de force est en train de s'inverser.
Oui, il faut se rappeler d'une chose très très amusante d'une certaine manière. Lorsque le Parti Socialiste était plus fort électoralement, il est peut-être encore assez fort dans les têtes. C'est-à-dire que moi, je voudrais quand même dire que on peut être faible électoralement et que la nostalgie du socialisme existe, y compris chez des gens qui n'ont jamais milité au Parti Socialiste. Un grand pays comme la France sans socialisme, sans famille socialiste, c'est compliqué. Et du coup, cette espèce de transvasement est quelque chose qui pose problème. Mais je me rappelle que moi, qui ai été plusieurs fois me présenter à des élections, ingagnables dans les Hauts-de-Seine, qu'on qualifiait les écologistes d'alliés de premier tour. C'est-à-dire qu'il y avait les socialistes, ils allaient au second tour et de toute façon, c'était les candidats sérieux. Et puis, il y avait les petits candidats, ceux qui apportent l'appoint. Et du coup, il faut comprendre que la politique, c'est aussi beaucoup de psychologie. Et souvent, d'ailleurs, on garde le souvenir, les esprits chagrins, l'esprit de vengeance, l'esprit de se débarrasser. C'est important et ça explique aujourd'hui sans doute pourquoi c'est si compliqué de faire l'alliance à gauche, parce qu'il y a eu cette inversion du rapport de force, mais que d'une certaine manière, les socialistes, là où je rejoins Sébastien Repère, ne l'avaient pas venu venir sans doute par une espèce de... Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est l'exercice du pouvoir qui vous entraîne dans quelque chose où c'est le quotidien, il faut faire face aux responsabilités. Mais ça n'excuse pas, évidemment, le fait d'avoir renoncé à certains idéaux et d'avoir déçu un électorat de gauche et notamment d'avoir sans doute trop facilement renoncé à l'électorat populaire et de l'avoir abandonné à l'extrême droite. Donc en tout cas, il y a ce sentiment du côté des écologistes que ce qui leur arrive, qu'ils n'avaient pas non plus vraiment prévu. C'est-à-dire que les socialistes n'avaient pas prévu ce qui leur arrive et les Verts non plus. Et du coup, tout le problème, c'est d'une certaine manière de ne pas céder aux passions qui seraient ben « maintenant, je t'écrase » et puis du côté des socialistes, se dire ben « nous, on n'a plus du tout de place ». Alors moi, je trouve que la déclaration d'Olivier Faure a un côté remarquable parce qu'il est quand même très rare qu'un chef de parti politique dise « écoutez, d'une certaine manière, on est prêt à laisser la place et c'est dans une logique de coopération que je vous parle et non pas dans une logique de concurrence ». Et je me demande si c'est pas une inversion des valeurs politiques qui, au fond, sur laquelle il y a une vraie aspiration, notamment du côté de la jeunesse, s'il y a urgence écologique, si on veut pas laisser une planète bouillante à nos enfants et petits-enfants, est-ce qu'il faut pas avoir une logique davantage de coopération politique que de concurrence? Mais ça n'emporte pas la question de la désignation de la personne, si on pense au présidentiel. Et du coup, cette manière de s'effacer sans dire avec force « on est prêt à partager, à s'effacer, mais on a des talents au Parti Socialiste et comme le dit Isabelle Thys-Saint-Jean, on a travaillé », ça manque dans la déclaration d'Olivier Faure. Ça ressemble à une sorte de renoncement sans avoir vraiment discuté. Et ça, moi je pense que ça peut pas se faire parce que ça peut du coup exciter du côté des Verts l'idée que tout est déjà fait sans réfléchir suffisamment au candidat qui peut gagner. Je pense que la déclaration d'Olivier Faure, elle aurait dû être musclée par le fait de dire « ensemble, on va gagner ».
Isabelle Thys-Saint-Jean, une réaction aux déclarations d'Olivier Faure ?
Elle a été accompagnée, cette déclaration, de main tendue à plusieurs reprises pour qu'il y ait un travail collectif de coopération. Par exemple, sur les universités d'été, pour reprendre votre propos introductif, nous, on avait proposé que les universités d'été soient organisées collectivement par l'ensemble de la gauche.
Et ça n'a pas eu lieu, pour quelle raison ?
Alors ça n'a pas eu lieu parce que finalement Europe Écologie a choisi de, alors même si nous participons à leur université et qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui sommes invités à y participer, mais l'organisation n'est pas collective. Parce que je pense qu'il y a cette espèce d'erreur dont témoignent là, les propos de Cara Mendelli, qui à mon avis sont, c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un avec qui on peut travailler. Donc je pense que ça vient de là, cette espèce d'illusion et de calculs un peu qui, à mon avis, ne nouissent pas collectivement à la hauteur des enjeux qui sont face à nous aujourd'hui. Enfin, je veux dire, la situation est dramatique. Elle est dramatique pour le pays. Elle est dramatique pour la planète. Donc, il faut vraiment que collectivement, y ait un travail. Et à mon avis, c'est ça la seule option qu'on peut avoir, qu'il y ait un travail de fond, qui soit fait, qui soit à la fois une refondation du socle idéologique, mais ça, je pense que ça va assez vite, une identification des points qui font divergence éventuellement entre nous, à l'intérieur de l'espace de la gauche et de l'écologie. Par exemple, est-ce que sur la question de la République, de la laïcité, sur la question de la décentralisation, sur la question de l'Europe, sur la question la primauté jusqu'à quel moment entre questions écologiques et questions sociales lorsqu'il y a des contradictions. Voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille et surtout, il faut que, au-delà de l'identification, parce que à mon avis, ça ira assez vite pour se rendre compte qu'il y a bien plus de divergences de moyens que d'objectifs et de valeurs entre nous tous. Hein. Une fois qu'on aura fait ce travail, qui est un travail collectif, programmatique, et là, je pense que c'est là où on se rendra compte, c'est là où j'ai à nouveau un petit désaccord avec ce qui était dit tout à l'heure, c'est là où on se rendra compte que, à bas bruit, le Parti socialiste a fait énormément de boulot, et pas simplement en reprenant des propositions des écologistes. Quand vous regardez les propositions de loi qui ont été déposées par le tout petit groupe vaillant là de nos parlementaires, notamment à l'Assemblée, ils ont déposé des tas de propositions de loi qui sont des éléments centraux, à mon avis, d'un programme qui sera un programme à la fois social, écologiste, féministe, et inscrit dans l'espace européen. Donc je pense que c'est ça la condition, c'est qu'on travaille ensemble, qu'on oublie les logiques partisanes, qu'on oublie les guerres d'ego, parce que on n'en sait rien. Franchement, l'accélération du temps politique fait que aujourd'hui, qui peut dire quoi sur, toutes les expériences récentes nous montrent que, franchement, se risquer à des paris sur qui en 2022, ça me paraît très très prématuré. En revanche, je vous invite à bosser sur le fond.
Oui. Alors, les Verts sont-ils la nouvelle gauche ? C'est la question que l'on se pose jusqu'à 19h.
C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague. Venez le rafraîchir et poursuivez son cours.
France Culture, le temps du débat d'été, Camille Diao.
Il y avait un jardin, c'était Georges Moustaki en 1971, un hymne antimilitariste qui est devenu au fil des années une chanson aux consonances écologistes. Alors que nous demandons justement jusqu'à 19h sur France Culture si les Verts sont devenus la nouvelle gauche, question débattue par nos trois invités, Lucille Schmitt, vice-présidente du think tank La Fabrique écologique, Isabelle Stis-Saint-Jean, secrétaire nationale du Parti socialiste, et Sébastien Repère, historien, auteur d'une thèse sur l'écologie politique en France. Isabelle Stis-Saint-Jean citait à l'instant quelques points idéologiquement, enfin quelques points de divergence idéologique entre les écologistes et les socialistes. Sébastien Repère, cette alliance, elle ne va pas de soi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels les deux camps n'ont jamais réussi à s'entendre?
Mais historiquement, les écologistes se disent ni de droite ni de gauche. Ça a d'ailleurs été longtemps le slogan de Die Grünen en Allemagne, ni à droite ni à gauche, mais en avant. Et à leur fondation, les Verts, en France, en 1984, reprennent ce credo et disent qu'ils n'appartiennent pas plus à la droite qu'à la gauche. Alors, en réalité, lorsqu'on regarde les valeurs et les principes auxquels sont attachés personnellement les différents militants, on voit bien qu'ils sont plutôt de gauche que de droite, évidemment. Mais il y a quand même cette déclaration de principe initiale. Et ça tient notamment au fait qu'il y a un différent profond entre l'écologie politique et la gauche. Historiquement, c'est que l'écologie rejette ce qu'elle estime être le productivisme, voire l'industrialisme de la gauche. Si on regarde quel est le projet global de la gauche, disons que au XXe siècle, c'est de faire de la croissance et après l'intervention de l'État, de répartir cette croissance pour assurer une meilleure égalité entre chacun, une meilleure répartition des richesses. Or, les Verts, les écologistes, rejettent de plus en plus nettement, au fil du temps, cette idée de croissance économique. À l'époque, au moment où ils naissent dans les années 80, ils se disent pas encore décroissantistes, le terme a pas été formulé tel quel, mais l'idée est déjà là, qu'il faut certes faire du social, mais en oubliant cette idée de croissance, parce que de toute façon elle est destructrice et prédatrice pour l'environnement. Donc il y a ce différent originel entre la gauche et l'écologie. Et ce différent, il se retrouve surtout entre les écologistes et ce qu'on pourrait appeler la première gauche, la gauche un peu, certains diraient à l'ancienne, un petit peu comme celle que représente Mitterrand, même si Mitterrand fait la synthèse entre plusieurs courants de la gauche, mais c'est surtout ce courant-là que rejettent les écologistes. Et les points d'accroche sont plutôt avec la deuxième gauche qui est davantage portée sur la société civile que sur l'État, qui est davantage portée sur l'individu que sur les institutions. Donc il y a quand même des points d'accroche, mais globalement il y a ce différent historique entre les deux familles politiques et entre les deux cultures politiques.
Alors Lucille Schmitt de La Fabrique écologique, est-ce que ces différences sont toujours aujourd'hui brûlants ou est-ce qu'on peut trouver une manière de construire un programme commun entre les écologistes et les socialistes?
Ce qui est intéressant, Sébastien Repère rappelait qu'en 1981, François Mitterrand n'avait pas eu besoin de l'apport des écologistes. Il y avait les 110 propositions de François Mitterrand. Et quand on les lit, il n'y avait absolument rien d'écolo. Sauf qu'il y avait la question sur le nucléaire, il y avait l'idée de référendum. Et je rappelle que Brice Lalonde, qui était candidat, n'avait pas appelé à voter François Mitterrand au deuxième tour. Donc on est dans cette situation où, effectivement, il fallait trouver ce logiciel. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a matière parce que, comme l'a rappelé Isabelle Stis-Saint-Jean, les socialistes ont évolué. Mais est-ce qu'ils n'ont pas évolué, comment dirais-je, par la force des choses, en récupérant, comme l'évoquait Sébastien Repère, des idées d'ailleurs, plutôt qu'en repensant vraiment le cœur de la question sociale et la question des politiques publiques? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il me semble que la grosse différence entre socialistes et écologistes aujourd'hui, c'est que les socialistes ont exercé à de nombreuses reprises des responsabilités nationales. À ce moment-là, il y a eu des ministres écologistes. Au temps de la gauche plurielle, lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, de 1997 à 2002, il y a eu aussi des ministres écologistes lorsque François Hollande était président de la République, avec Jean-Marc Ayrault. Mais on se rappelle que de cette démission assez fracassante de Cécile Duflot et de Pascal Canfin, qui depuis est devenu membre de La République En Marche. Donc il y a une espèce de fluidité, quelque part, dans les parcours des écologistes, qui a moins chez les socialistes. Et en tout cas, l'exercice des responsabilités nationales est quelque chose dont les écologistes ne sont pas familiers. Ils exercent des responsabilités régionales, municipales et européennes. Encore, ils ne sont pas dans les exécutifs. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a un point aveugle. C'est, comme le disait Sébastien à l'instant, la pensée de l'État. Au fond, l'État, pour les écologistes, les questions régaliennes, la question diplomatique, la question sécuritaire, le ministère de l'Intérieur, la question de la migration, ce sont des sujets sur lesquels on imagine assez mal des ministres écologistes. Et par exemple, les Grünen, en Allemagne, de longue date, ont exercé des responsabilités sur ces enjeux-là. Joschka Fischer était ministre des Affaires étrangères et a fait rompre les Grünen par rapport à leur tradition pacifiste. Donc il y a à la fois la question de la divergence évidente sur la croissance, mais il y a aussi la question des points aveugles, c'est-à-dire comment est-ce que les écologistes pourraient se mettre à travailler sur ces questions régaliennes, sur la question de la place de l'État. Isabelle Thyssen-Jean rappelait que l'État, c'est aussi le lieu de la redistribution. Certes, mais comment est-ce qu'on fait pour organiser une décentralisation redistributive? Comment est-ce qu'on fait pour organiser une politique migratoire qui prenne en compte les enjeux de catastrophes écologiques? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un budget qui reflète le volontarisme écologique? Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on entend peu les Verts français. On les entend, et c'est bien, on les entend beaucoup sur les droits des minorités. Par exemple, le désaccord entre Anne Hidalgo et ses Verts élus, c'est un désaccord sur à la fois le droit d'inventaire par rapport à Bertrand Delanoë, disons-le, mais aussi la question du droit des plus faibles et la question de la persécution et quelque chose aussi, quelque part, sur l'anticolonialisme. Enfin, il y a quelque chose là-dessus qui est très fort. Donc c'est un changement culturel, mais comment est-ce qu'il peut être associé à une culture du projet en responsabilité? Et là-dessus, on va sans doute en parler si on a un peu le temps, c'est la question de l'élection des maires verts. Je ne sais pas si c'est une vague verte, mais je pense qu'avoir des maires en situation de responsabilité très importante à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, considérer qu'Anne Hidalgo est une maire écologiste, comme ça a été suggéré par Sébastien, tout ça c'est essentiel parce que ça permet de dire, ben, là on a fait du logement, là on a tenu un budget, on n'a pas eu de déficit budgétaire, là on a mené une politique active face au dérèglement climatique et on a été parfois plus efficace que les anciens maires.
Sébastien Repère, historien, très rapidement.
Oui, simplement sur 1981, puisqu'on en a parlé plusieurs fois, je dirais qu'il y a déjà une stratégie de séduction à l'égard des écologistes. Hein. Quelques temps avant le premier tour de l'élection présidentielle, il y a un grand colloque sur l'écologie au quotidien qui est organisé par le PS. Donc il y a déjà cette stratégie, mais ce qu'il n'y a pas, c'est la conversion globale qui va se produire bien plus tard, deux voire trois décennies plus tard, à l'écologie de la part du PS.
Je voudrais juste dire un truc dont on n'a pas parlé, c'est quand même le nucléaire. C'est-à-dire que, profondément, la culture des Verts est anti-nucléaire comme celle des Grünen. Et moi, j'étais une des négociatrices de l'accord entre le PS et les écologistes en 2011, avant la victoire de François Hollande. Et à ce moment-là, on a mis entre parenthèses, comme on dit, deux choses, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et la question du nucléaire. Donc là, il y a quelque chose, c'est pas seulement le productivisme, c'est aussi quelque chose sur les grands travaux, l'aménagement du territoire, et au fond, comment est-ce qu'on imagine la société future?
Oui, cette question du nucléaire est d'autant plus forte que, chez les écologistes, le rejet du nucléaire est avant tout politique, avant même d'être environnemental. C'est-à-dire que le nucléaire est le symbole d'une domination de la technocratie scientifique, de quelque chose qui échappe totalement au pouvoir des citoyens, et donc c'est vraiment une question centrale.
Et en France, c'est le nucléaire militaire aussi bien que civil. C'est ça qui est important.
Oui.
Alors, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant, Lucille Schmitt. Vous parliez de choses concrètes, de projets, des maires écologistes qui peuvent agir de manière concrète pour leurs administrés. Et justement, il y a des alliances qui s'imaginent entre les écologistes et le reste de la gauche à une échelle autre que l'échelle nationale, à l'échelle locale. Le 21 juillet dernier à Tours, s'est tenue une réunion de maires socialistes, écologistes et communistes dans l'objectif de créer une sorte de réseau des villes progressistes, écologiques, l'idée étant évidemment à terme d'utiliser ce réseau pour peser davantage sur la politique nationale. Écoutez trois de ces maires interrogés par TV Tour Val-de-Loire.
L'image que l'on peut prendre, c'est un peu l'effet boule de neige. C'était important aussi d'accueillir tous les amis qui viennent d'être élus et qui agissent déjà depuis quelques années sur les sujets pour pouvoir accélérer nous-mêmes nos transitions écologiques sur les territoires de Tours.
Il faut que enfin on sorte de cet archaïsme dans lequel notre pays est plongé depuis très très longtemps, qui est ce jacobinisme, ce colbertisme, tout se décide dans les ministères parisiens. Et nous, nous sommes là pour dire que nous portons aussi cette volonté d'engagement des citoyens pour prendre en main leur destin, prendre en main leur vie.
Je disais souvent, notamment à l'Association des maires de France, qu'il était absolument essentiel de partir des initiatives des territoires, des initiatives écologiques, des initiatives de la transition citoyenne, pour sans doute en faire un projet national.
Alors, vous venez d'entendre Emmanuel Denis, le nouveau maire Europe Écologie Les Verts de Tours, suivi d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Wilfried Schwartz, le président de Tours Val-de-Loire. Isabelle Tisse-Saint-Jean, secrétaire nationale du Parti Socialiste, est-ce que ce n'est pas plutôt à ce niveau, au niveau local, très pragmatique, très concret, que des nouvelles formes d'alliance des différentes gauches peuvent s'inventer, plutôt qu'à l'échelle nationale ?
Je pense que c'est pas du tout incompatible, que bien sûr, et les élections municipales en ont attesté, il y a un travail collectif au niveau de l'échelon local qui se fait et qui va s'approfondir, et c'est une excellente chose, et que ça permettra probablement aussi de passer outre les traumatismes dont on a parlé récents de l'histoire politique et de l'histoire de beaucoup qui fait que il y a cette espèce de difficulté à une construction commune. Donc ça c'est tout à fait essentiel et d'autant que comme le disait Lucille Schmitt, il y a nécessité de redistribution, mais il y a aussi nécessité de la penser au niveau local, de la même manière que les solutions environnementales sont à penser aussi au niveau local. Mais en revanche, dans un pays comme la France, on ne peut pas faire l'économie de, à un moment, se situer au niveau national, de travailler au niveau national, notamment quand on est face à une échéance qui se rapproche, qui est celle de 2022, dans la 6e République, même si on a tous conscience du fait, et ça aussi je crois que c'est un point commun partagé à gauche, que la 6e, avec cette espèce d'hypercentralisation,
la 5e République.
Avec cette hypercentralisation, cette personnalisation, ça va plus du tout dans un moment où, je l'ai dit tout à l'heure, quoi, on a besoin d'intelligence collective, on a besoin que chacun se mobilise, on a besoin de retrouver toutes les énergies, et c'est pas des slogans,
pour cette échéance 2022, je suis désolée parce qu'on arrive à la toute fin de cette émission, et je voudrais un dernier mot de Lucille Schmitt, échéance 2022, Isabelle Tisse-Saint-Jean vient de l'évoquer, est-ce que vous imaginez, enfin, quelle personnalité, en fait, pour porter ce projet, cet éventuel projet qui rassemblera la gauche et les écologistes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir son épingle du jeu? Et vous avez 30 secondes pour me répondre.
Non, je sais pas. Moi, ce que j'observe, c'est qu'actuellement, on parle du duel entre Yannick Jadot et le maire de Grenoble, Éric Piolle. Et moi, je pense que c'est pas comme ça que ça doit se résoudre, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on peut pas, d'une part, dire qu'on est gauche et écologiste, et d'autre part, faire le débat seulement entre deux hommes écologistes. Par exemple, moi, j'ajouterais bien Delphine Bateau, que je connais bien, dont j'apprécie les convictions. C'est une ancienne socialiste. Et je pense qu'au fond, ça montre qu'aujourd'hui, les personnes se sont quelque part abstraites des appareils politiques et que ce qui compte, c'est leurs convictions, leur possibilité d'incarnation. J'ajouterais qu'il faut choisir quelqu'un qui gagnera. Ça, c'est un point. C'est-à-dire que l'appel à l'union, sans se dire, bon, mais lui ou elle peut gagner davantage qu'elle, c'est à la fois la coopération et la compétition. Et au fond, c'est ça qu'il faut assumer et arrêter de dire, soyons tous ensemble et réfléchissons aux idées avant de parler des personnes, en repoussant le choix des personnes trop longtemps, parce que sinon on perdra. Et je rappelle que ça finit par des aventures comme Emmanuel Macron, qui vient du Parti Socialiste.
Et c'est ainsi que se termine cette émission consacrée aux perspectives écologistes dans le paysage politique français. Merci à nos invités du soir, Lucille Schmitt, Sébastien Repère, Isabelle Tisse-Saint-Jean, d'avoir participé à la discussion, ainsi qu'à toute l'équipe du Temps du Débat, Sophie Alavi, Audrey Dugas, Mathilde Tonfourcade, Nicolas Berling, Alexandra Delbo, à la réalisation ce soir Doria Zénine, à la technique, c'est Marie-Claire Oubamadi. Demain, dans les matins d'été, Guillaume Erner recevra Amélie Nothomb après une première partie d'émission consacrée à la rentrée et au Covid-19, à la Covid-19. Quant à nous, on se retrouve demain soir, 18h15, pour la toute dernière du Temps du Débat d'été consacré au télétravail. Et oui, ça sentira à nouveau la rentrée. Bonne soirée sur France Culture. À demain.